right around the time that deinstitutionalization was happening.
À l'époque de la désinstitutionnalisation, on avait beaucoup de ces immeubles qui étaient presque vacants, parce que plusieurs résidents les quittaient pour s'installer en banlieue. Même ces édifices sur la rue Jameson, qui avaient été présentés comme des exemples de modernisme, ne répondaient que partiellement aux besoins. Ils avaient été construits dans les années 50 et ils perdaient déjà de leur lustre. Comme tout le monde quittait vers la banlieue, il y avait un haut taux d'inoccupation et le prix des maisons était vraiment pas cher. Donc, des entrepreneurs les achetaient et les louaient. Il n'y avait pas de normes. Mais c'est ce qui se passait. Au moment où la désinstitutionnalisation battait son plein, le monde se disait « Eh bien, je pourrais devenir responsable d'une maison de chambre. » Donc, le monde mettait sur pied de petites maisons pour des soins spéciaux ou quoi que ce soit. Le monde vivait à 5 dans une chambre. Le premier vrai livre de Pat Capone était « En haut, dans la maison folle », qui parlait d'une maison de chambre qui s'appelait Shannon Court, où elle avait vécu et où les conditions étaient vraiment déplorables. C'était la norme. Alors, le parc a été mis sur pied en réponse à tous ces adultes qui vivaient dans des maisons de chambre. Si tu vis à 5 dans une chambre, tu ne vas probablement pas rester et donc tu vas aller dans la rue. Des bénévoles et d'autres mondes se sont dit « il faut faire quelque chose ». Ils ont donc proposé le parc. Et le parc a ouvert quelques années après, comme une réponse, un lieu où aller. C'est devenu le salon des milliers de personnes, parce que ces gens avaient nulle part où aller. Aussitôt que les gens sont venus au parc, ils ont commencé à parler d'où ils vivaient, et aussitôt, ils ont commencé à parler d'où ils vivaient, on se disait, « Oh mon Dieu, ça a l'air épouvantable ». Donc, vous pouvez imaginer qu'on a immédiatement commencé à se dire, « Bon ben, on va faire quelque chose pour ça ». Bob a commencé. Il peut te raconter le contexte historique, parce qu'il a travaillé à Archway. Mais il a consacré une bonne partie de son travail dans les maisons de chambre, et il a vu tous les endroits épouvantables. Donc l'expérience de les membres du parc, et d'une certaine façon, le rôle du parc, c'était de répondre à ce que les membres nous racontaient à propos de leur vie. Tu as donc toutes ces questions qui se présentent, parce que l'hébergement, c'est un élément fondamental de la vie. Si tu n'as pas un endroit où vivre, que ce soit chez vous ou pas. Donc, la première chose que tu as besoin de faire, si tu regardes la pyramide des besoins de Maslow, j'ai besoin d'un toit, j'ai besoin de nourriture. Et bien sûr, on doit lutter sans cesse avec le fait que tu es pauvre, que tu peux te permettre un des deux, mais souvent, tu ne peux pas te payer les deux. Donc, tu peux te payer un toit, mais s'il n'est pas accessible, il pourra l'être en indexant le prix du loyer au revenu. Il devient donc accessible. On a beaucoup d'hébergements abordables dans le marché privé à Parkdale, ce qui veut dire que c'est un petit peu moins cher que le reste du marché. Mais il reste que ça représente probablement autour de 90% du chèque d'assistance sociale de quelqu'un. C'est abordable, mais il leur reste juste 100 $ pour tout le reste de leurs dépenses du mois ensuite. Donc, il ne leur reste pas assez pour se nourrir. Donc, tu commences à te rendre compte que ce n'est pas seulement l'hébergement, bien que l'hébergement soit une question fondamentale, mais c'est tout ce qui en découle. L'alimentation, oui, c'est ensuite un but dans la vie, comme un engagement significatif, tisser des liens, pas se sentir ostracisé ou diabolisé, parce que tu sais comment les gens qui sont différents sont accueillis au sein d'une communauté, comment ils sont supportés par une communauté, comment on les évite ou comment on leur dit non, c'est que on les connaît et on a maintenant une relation avec eux. C'est donc tous ces besoins et demandes qui sont derrière ce que fait le parc. On a commencé dans un très petit espace. Une fois qu'on a réussi à obtenir un immeuble rénové, il fallait en assurer les coûts, mais on en a été incapable, parce qu'il y avait un gros débat, à savoir si on devrait fournir un logement à tout le monde, parce qu'on ne pouvait pas en offrir à tous. Ça n'aurait pas dû être comme ça, mais on devait en offrir à certains et apprendre de tout cela. Parce que, bien sûr, je pense que le plus important là-dedans, dans cette décision, qui a été particulièrement déterminante pour l'organisation, qui nous a ensuite mené à dire Quand on a proposé un endroit à Edmond, on avait notre cassette et on disait, vous savez, on a fait ça pendant de nombreuses années. Et ça voulait dire aussi, pour le reste de la communauté, qu'on pouvait commencer à dire, on le fait. Et ça nous mène à d'autres problématiques liées à la pauvreté et à la sécurité alimentaire et à la question plus large de l'inclusion sociale. Parce que, avec la gentrification, on sent bien la pression. On sait que sans mécanisme prévenant l'exclusion, basé uniquement sur l'exclusion financière, le parc perdra non seulement son dynamisme, mais aussi des acteurs clés de sa communauté. Donc, on doit regarder ça de près d'un point de vue communautaire et chercher à occuper une plus grande sphère d'influence. On ne peut pas juste... On a maintenant besoin de sonder le voisinage pour savoir qui vit ici et comment, qui a le droit d'être ici et comment on doit commencer à parler de s'assurer que les gens ne soient pas délocalisés en raison de facteurs économiques. Comment peut-on assurer que les logements abordables et supervisés soient disponibles? Comment doit-on parler du genre de voisinage qu'on aimerait continuer à avoir?